Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Eh bien, en fait, du coup, son témoignage introduit un petit peu la suite, pas dans son témoignage en lui-même, mais dans l'émotion qui a été suscitée. Parce que le thème que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, les larmes de l'homme de Dieu. Et c'est une réalité, hein, les larmes. Mais de quel homme de Dieu est-il question ? Il est question du prophète Jérémie. Et cet homme, prophète Jérémie, cet homme de Dieu, dira un jour, je suis l'homme qui a vu la misère. Parce que la ville de Jérusalem était, et donc avait été investie par les Babyloniens, avait été ravagée, détruite littéralement, pillée, etc. Et ses yeux ont vu cela, et le fait, et ce qu'il a vu a déclenché chez lui un phénomène, une réaction normale que nous connaissons, les larmes. On va lire ensemble dans les Lamentations, chapitre 1er. On va passer comme ça, au niveau des chapitres, Lamentations, chapitre 1er, verset 2. Lamentations, chapitre 1er, verset 2. Elle pleure dans la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Et tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Là, dès le chapitre 1er, il est question des larmes, donc au verset 2, et ses joues sont couvertes de larmes. Tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Et c'est vrai, quand nos larmes coulent, nous avons besoin de réconfort. Quand nos larmes coulent, nous avons besoin de soutien. Quand nos larmes coulent, nous avons besoin de présence. Nous avons besoin de chaleur. Nous avons besoin d'une épaule. Vendredi était une journée vraiment particulière et difficile. En ce sens que nous avons pu accompagner et être auprès de personnes qui vivaient vraiment un drame. Ce sont des amis d'une chrétienne de l'assemblée, des amis à elle, donc qui ne sont pas au Seigneur, et ils vont un drame, le bébé mais à 5 mois et demi est parti. Et nous étions là avec eux vendredi. Et les larmes, bien sûr, les larmes étaient là. Et il y a ce besoin dans ces moments-là de cette consolation. Et l'homme de Dieu disait, mais nul, les larmes sont là, ses joues sont couvertes de larmes, mais personne, nul ne la console. Une parole qui nous interpelle. Quant aussi, il dira ceci, quand il parle des amis, tous ses amis, ils sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Normalement, ce qu'on pourrait attendre des amis, n'est-ce pas ? Au mot de la consolation, quand les larmes sont là, et bien là, ils n'étaient pas là. Ils ont même tourné le talon. Et ça m'a rappelé l'apôtre Paul. Quand il dira dans 2 Timothée 1,16, et parlant de Nésiphore, il m'a souvent consolé. Et là, on se dit quoi ? L'apôtre Paul a eu besoin de consolation ? Non. Ça ne doit pas être l'apôtre Paul que je connais. Non. L'apôtre Paul que je connais, moi, il est fort. C'est un conquérant. C'est un vaillant. Il est courageux, etc. Oui, mais ce n'était pas un robot. Ce n'était pas un robot dans le sens où c'était un homme de la même nature que nous, fait, si je peux m'exprimer ainsi, fait de la même pâte, avec un cœur, avec des sentiments, donc créé comme cela, avec un cœur, créé avec des sentiments et aussi créé avec des larmes. Créé avec des larmes. Et des larmes, pourquoi ? Pourquoi avait-il perdu un être cher ? Quand Paul dit ça, Paul est en prison. Il est en prison et c'est vrai que... mais nous ne nous méprenons pas. Paul n'a pas tué, Paul n'a pas volé. Paul a simplement prêché l'évangile et il est là en prison. Et les prisons de l'époque ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui, qui peuvent, certaines, faire 6 mètres par 3. Ce n'était pas du tout ça. Les prisons de l'époque étaient lugubres, étaient vétustes, il faisait froid. L'apôtre Paul dira aussi à Timothée justement, ramène mon manteau, il faisait très froid. Ils avaient également les chaînes aux pieds. Et les prisons, à l'époque, les prisons étaient basses, étaient très basses. Et pour moi, ce n'est pas la prison qui lui a fait dire ça. Parce que quand on voit la vie de l'apôtre Paul, il en a vu vraiment des choses, des vertes et des pas mûres. Ce n'est pas pour moi la prison, mais c'est quand il dira un peu plus haut, tous, en Asie, tous m'ont abandonné. Et là, pour moi, est la raison. Tous m'ont abandonné. De ceux qui auraient pu espérer, justement, le soutien, étant en prison, etc. Pour la foi, non. Ces gens-là se sont détournés de lui, comme s'ils ne le connaissaient plus. Des gens, collaborateurs, avec qui, aussi, il avait œuvré ça. Ça fait mal. Il m'a souvent consolé. L'abandon. Parlerai aux personnes hein, qui ont connu l'abandon d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez si des larmes n'ont pas coulé. Est-ce que vous avez déjà remarqué lorsque, par exemple, dans une grande surface ou peu importe l'endroit, quand un enfant, vous arrivez là, vous voyez un enfant qui est là et qui pleure. Il pleure, etc. Maman, baba, il est en larmes. Et parce que vous réalisez que les parents ne sont plus là. Pourquoi l'enfant pleure ? Pourquoi l'enfant pleure ? Pourquoi les larmes coulent ? Parce qu'il y a, quand il se passe ça, et l'absence, du coup, des parents, il se produit en lui le sentiment d'abandon. Et il est là, il est troublé. Et c'est pour ça qu'il pleure. Les larmes et l'apôtre Paul. Ils m'ont tous abandonné. Mais Dieu soit béni qu'il y avait un Onésiphore qui l'a consolé, et plus d'une fois. Mais Jérémie dit, nul ne la console. Au verset 4, il dit ceci, les chemins de Sion sont dans le deuil. Jérémie, l'homme de Dieu, est dans le deuil. D'ailleurs, il le dira plus tard, et le deuil que vit Jérémie est semblable au deuil d'une personne affligée qui assiste aux funérailles d'un membre intime décédé de façon tragique. C'est ce qui se passe en lui-même quand l'homme de Dieu voit tout ça. Les larmes coulent de façon tragique. On a tous entendu vendredi ce qui s'est passé dans la Gironde. Cet accident tragique, autocar, etc. Et de voir les coupures de presse, etc., aller voir les photos, les gens en larmes, bien sûr, les larmes coulent. Et j'ai pensé à cette veuve, dans Luc chapitre 7, cette veuve de Naïn. Cette veuve a enterré son mari. Et là, elle est là, ce cortège, et elle enterre son fils, son unique. Et ça m'a rappelé, jeudi, j'évoquais ce qui s'était passé en Angleterre, ces deux jeunes-là qui sont en faisant n'importe quoi, drogue, alcool, conduire sans permis. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que ils sont rentrés directement dans une église, tout droit, la voiture dans une église. D'ailleurs, la même église qui, quelques jours plus tard, faisait rentrer les deux cercueils. Et là, de voir les mères en larmes. Et Jésus passe par là. Jésus la voit. Jésus voit ses larmes. Et Jésus aurait pu passer outre. Il aurait pu passer outre en disant, c'est la vie, c'est la vie. Et non, le texte nous dit que Jésus, en la voyant, Jésus fut ému de compassion en la voyant pleurer. Jésus va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il va aller vers elle et il va lui dire, ne pleure pas. Jésus va opérer le miracle en ressuscitant son fils et en le rendant à sa mère. D'une certaine manière, ce que nous avons vécu dimanche dernier au travers des baptêmes, il y a une mère qui a vécu cela dans une certaine manière. Son fils lui a été rendu par Jésus. Elle est là au milieu de nous. Jésus voit vos larmes, ou voit nos larmes cet après-midi. Il ne va pas passer à côté de vous l'air de rien différent, comme si votre cas ne le préoccupait pas. Non, ça ce n'est pas Jésus ça. Jésus prend le temps. Jésus prend le temps de s'occuper de notre chagrin. Parce qu'il est sensible à nos larmes. Il est sensible à nos larmes. Nos larmes le touchent. Nos larmes le touchent. Au verset 12, le prophète vient regarder et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Ouais. Et c'est vrai que là, l'homme de Dieu, il s'identifie à la ville, il s'identifie à Jérusalem. Regardez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Et c'est vrai que quand on continue un peu plus loin, au chapitre deuxième, et au verset 12, il y aura ceci, au verset 13. « Que dois-je te dire ? À quoi te comparer, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi ? Et quelle consolation te donner, vierge fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir ?» Mais avant cela, justement, avant d'en arriver là, au verset 11, il dira, regardez, mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent, ils se lèvent sur terre. Un peu plus loin, il dira, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Il parle de cette blessure, mais parce qu'il a vu, des enfants, des nourrissons en défaillance dans la ville. Et c'est vrai qu'en relisant ça, je réalise davantage ce qu'il a vu. Maintenant que j'ai une fille, je réalise davantage ses propos. Le prophète pleure devant ce triste spectacle. Et on ne peut qu'être également aussi touché par cela. C'est pour cela que je pleure, dira-t-il aussi au chapitre 1er, au verset 16, c'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Mes yeux fondent en larmes. Il dira également, mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Jérémie verse des larmes parce que les jeunes ont été emmenés par l'ennemi. Est-ce que on les reverra un jour? Eux qui étaient l'avenir, qui étaient la relève là. Et il est là, il est en larmes. Au verset 8, il dira, qui offre plus ensemble qu'une triste ruine. Une triste ruine. Vous savez, la parole de Dieu, elle est ancienne. La parole de Dieu, elle est ancienne, mais elle est ô combien actuelle dans ses dires. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que l'homme de Dieu a vu, il est là et il y a des ruines qui sont là. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le sud-est? N'est-ce pas là? N'a-t-il pas eu des ruines là? Avec toutes ces inondations, ces choses qui sont arrivées, des maisons là, qui sont tombées, et les gens qui ont perdu, et de voir aussi en larmes des vies entières, des souvenirs envolés, toutes sortes de choses, il faut repartir de zéro. Les larmes sont là, et le prophète aussi, eh ben, pleure, il pleure. Mes yeux se consument dans les larmes, dira-t-il. Ou traduit aussi, mes yeux s'épuisent à verser des larmes. C'est parlant, c'est comme une personne qui est là, qui pleure depuis des jours, ça coule. Et c'est vraiment terrible ce que le prophète a vu. Et je reviens à ce qu'il disait, ta plaie est grande comme la mer. Vous savez, quand les enfants se font mal, on va les voir, ils ont un petit bobo, ils pleurent, c'est normal. On les console, on sèche leurs larmes, et puis hop, c'est fini, c'est reparti pour un tour. Mais on le sait. L'expérience humaine montre que les blessures ne sont pas toujours des blessures qui sont superficielles. Parfois, elles sont même parfois très profondes. Et elles font mal. Et certaines sont vives, des plaies vives. Il dira, car ta plaie est grande comme la mer. Ça nous donne toute la mesure de ce qui se passait sous les yeux de l'homme de Dieu, à tel point qu'il se demande, mais qui pourra te guérir? Qui pourra te guérir? Jésus a dit, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça nous parle de blessures. J'ai été envoyé pour cela, pour guérir les blessures, même les blessures qui sont grandes comme la mer. Il n'y a aucun défi qui ne soit trop grand pour Jésus. Et beaucoup pourraient en témoigner. Et peut-être aussi à l'annonce d'une maladie, peut-être que des larmes ont coulé. Peut-être surtout à l'évocation du mot incurable, ou de cette phrase, c'est la fin. Qui pourra te guérir? Et Dieu a dit lui-même de sa bouche, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Au verset 18, donc du chapitre 2, il dira ceci, leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ou laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Et on voit que ce n'est pas juste des gouttelettes, hein, ou deux ou trois larmes. Non, il parle de fleuves de larmes. Pourquoi? Parce que regardez au verset 20, il dira, vois Éternel, regarde qui tu as ainsi été. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants objets de leur tendresse? Ces larmes coulent parce qu'il a vu l'impossible. Il a vu l'impossible. Il dira aussi que, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien. Il dira, j'ai vu des gens chercher du pain. Hélas, ce qu'il a vu l'a mis dans un état terrible. Et ce ne sont pas des choses qu'on lui a rapportées. Ce ne sont pas des choses que le prophète a vues de ses propres yeux. Il a été le témoin oculaire de ces atrocités. Et on sent là comment il était marqué par ça, qu'il ne le serait pas. Au verset, un peu plus loin, au verset 48 du chapitre 3, il dira, des torrents coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Où je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Et des fois, des gens viennent et ils se disent que leur vie est comme un désastre. C'est un désastre. Il y a eu des échecs. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Tout s'est effondré. Et ma vie est un désastre. Et les larmes sont là. Pourront-ils se relever? Verset 49. On dira, mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche. C'est comme s'il n'y a pas d'arrêt à ces larmes qui coulent. Mais j'aimerais quand même vous montrer ce que le Seigneur ce que le Seigneur peut faire. Regardez avec moi au chapitre 4. Au chapitre 4. Au verset 17, il dira ceci. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Bien sûr, vers une nation, ils portaient leur regard vers des nations, ils attendaient le secours des nations. Leurs yeux étaient sur ça, leurs yeux pleuraient. Mais le secours ne vient pas des nations. Vous savez, ce qu'ils vivaient, ce que la ville a traversé, c'était du fait de son péché. Des prophètes, c'était des hommes, c'était succédés pour dire, revenez de vos mauvaises voies, repentez-vous, revenez à l'Éternel, etc. Et le peuple avait comme fait la sourde oreille, n'avait pas écouté. Et ce qui avait été dit est arrivé. Et là, les larmes de l'homme de Dieu sont là. Mais ce que je remarque, lui, en voyant Jérusalem, 600 ans plus tard, un homme plus qu'un homme de Dieu, le Fils de Dieu, a lui également pleuré devant la même ville. L'homme Jérémie a pleuré devant Jérusalem. 600 ans plus tard, Jésus a pleuré également devant Jérusalem. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 41. Luc chapitre 19, verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et quand Jésus dit ça, ces paroles qu'on vient de lire, Jésus, il est en larmes. Les larmes coulent le long de ses joues en voyant la ville de Jérusalem. Jésus pleura sur elle. Jésus a pleuré. Il a pleuré également quand, par rapport à Lazare, quand il est arrivé là, devant le tombeau, il est marqué, c'est le verset le plus court de toute la Bible. Deux mots, Jean 11, 35, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Les larmes ont coulé là sur le long de ses joues. En voyant, là pour lui, c'était les conséquences du péché, la mort. Jésus a pleuré, a versé des larmes. Et également, regardez avec moi dans Hébreux au chapitre 5. Hébreux chapitre 5 et le verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est question de Jésus. Là, encore une question de ses larmes. Il a pleuré. Et revenons à l'homme de Dieu. Dans Lamentations, chapitre 4, au verset 21, il dira, réjouis-toi. Oui, nous revenir au Éternel, nous reviendrons. Et réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Alléluia. Tressaille d'allégresse. Comment est-ce possible? Quand tout est détruit, quand tout est par terre, les jeunes ont été emmenés en captivité, sont tombés par l'épée, les enfants sont en défaillance, il y a plus. Comment se réjouir? Et il dira ceci au verset 22, fille de Sion, ton péché est expié. Ton péché est expié. Expié, qui veut dire ôter, couvert. Réjouis-toi, Sèche tes larmes parce que ton péché n'est plus devant mes yeux. Et pourquoi ? Mais s'il a été expié, c'est parce qu'il y a eu un acte qui était accompli. Si pour nous, le péché a été expié, c'est parce que Jésus-Christ, oui, a pleuré, a versé des larmes, a souffert, a été crucifié. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons nous réjouir et tressaillir d'allégresse. Alors, si des larmes ont coulé ou si des larmes coulent, le Seigneur est celui qui veut nous consoler. Le Seigneur est celui qui veut nous faire du bien. Le Seigneur est celui qui veut passer son baume sur nos cœurs. Il ne connaît pas nos situations. Et le Seigneur, lui, les connaît. Il sait. Et il sait peut-être que c'est pas ici même, peut-être. Peut-être c'est chez nous, dans nos demeures. Là, peut-être même dans la chambre, on est là et les larmes coulent. Comme l'homme de Dieu, les larmes coulent sur nos joues. Et le Seigneur, qui est tout près de nous, est là et il veut nous prendre. Vous savez, j'aime bien quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un est là et on voit une autre personne, peu importe, et la personne va et la personne est là et voilà, il y a un geste là. Et puis, la consolation. J'aime voir ça. Et Dieu aussi, Dieu est celui qui veut nous serrer contre lui. Et celui qui veut nous prendre si les larmes coulent le long de nos joues. Alors, si vous le voulez bien, on pourrait courber nos têtes quelques instants et fermer nos yeux. Peut-être que nos bien-aimés qui nous conduisent dans un champ pourraient s'avancer. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Parce que tu es celui qui connaît nos vies. Tu es celui qui connaît nos circonstances. Et tu n'es pas celui qui passe ou qui passe à côté, mais tu es celui qui s'arrête. Qui s'arrête et qui est ému de compassion. Et qui est aussi qui a une parole pour nous. Comme tu as eu une parole pour cette mère, tu as une parole pour nous. Et si quelqu'un cet après-midi aurait besoin de la prière, besoin de la consolation, besoin d'une grâce de Dieu sur son cœur aussi là, eh bien, on voudrait donner l'occasion, vous approcher, et que les serviteurs prient pour vous, dans le nom de Jésus-Christ, et vraiment que vous puissiez saisir ce moment favorable pour vous approcher, et ne pas manquer la bénédiction, je crois, que Dieu veut vous accorder. Alors, quand le chant commencera à entonner, ben, approchez-vous. Le Seigneur est là, il veut agir. Il veut intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si vous avez besoin également dans votre corps aussi, approchez-vous également. Nous prions aussi conformément à ce que Jésus nous a demandé. Alléluia, Jésus-Christ.